On va faire aujourd'hui, comme à l'approche de chaque fête, un cours hors série autour de la fête. Parce qu'étudier le Tania, c'est bien, c'est important. Mais d'un autre côté, il est important de se préparer à la fête, de rentrer dans les coulisses, de rentrer dans la profondeur, et de comprendre qu'est-ce que c'est cette fête de Pourim. Vous allez voir que cette fête de Pourim contient de grands messages. De grands messages. Et d'où le titre d'aujourd'hui, qui n'est pas un titre pompeux du tout, qui est un titre sérieux. Pourim, un message d'actualité. Et quand je dis le mot d'actualité, c'est-à-dire que c'est un message qui est actuel pour nous aujourd'hui. Vous verrez, à la fin du cours, on verra à quel point le message de Pourim est on ne peut plus actuel. Ok. Alors, en guise d'introduction, on va commencer par un commentaire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous dit la chose suivante. Il nous dit « Akore et Megillah les mafrea lo yatsa ». Il nous rappelle une Mishnah dans le traité Megillah qui dit « Celui qui lit la Megillah à l'envers n'est pas quitte ». Ça veut dire quoi lire la Megillah à l'envers? Dans la Megillah, il y a combien de chapitres?
12.
10. Okay. Imaginez une personne qui vient en retard à la synagogue et il est arrivé alors que le Chazan était déjà au chapitre numéro 2. Alors il va se dire, au lieu d'attendre la prochaine lecture et de recommencer la prochaine lecture complètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter maintenant du chapitre 2 au chapitre 10 et à la prochaine lecture j'écouterai le chapitre 1. Comme ça, je les aurai dans le désordre, je les aurai. Quelle est la réponse? La Mishnah te dit, celui qui lit la Megillah à l'envers, ça veut dire dans le désordre, rétroactivement, le Yatsa, il n'est pas quitte. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, regardez comment dit le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov fait un jeu de mots. Il dit, à l'envers, rétroactivement, alors littéralement, ça veut dire lire la Megillah rétroactivement, ça veut dire lire le chapitre 2 avant de lire le chapitre 1. Mais lire la Megillah rétroactivement, dans le sens figuré, ça veut dire aussi lire la Megillah en pensant que c'est une histoire rétroactive, que c'est une vieille histoire, que c'est has-been, que c'est arriéré, que ce n'est pas d'actualité. Dit la Megillah, dit le Baal Shem Tov, im kore adam et la Megillah, celui qui lit la Megillah, ve sover en pensant, shame souparba, que ce récit, ira rak be'avar, appartient au passé, lemafrea, rétroactivement, mais lo chercha voinet, c'est que le miracle ne se passe pas maintenant. Lo yatsa, il n'est pas quitte. Pourquoi? Tachlit la Megillah hu, sheilmad adam imena, car l'objectif de la lecture de la Megillah est d'y apprendre. Er tsarich yehudi linhog beove, comment un juif doit se comporter au présent. Donc vous voyez ce qu'on vient de dire? Ça veut dire que toutes les fêtes en général ont un message actuel, mais en particulier la fête de Pourim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à la fête de Pourim? Plus que Hanouka, plus que Pessah, plus que Shavuot, plus que Sukkot. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à la fête de Pourim? La particularité de la fête de Pourim, c'est que c'est une fête qui se passe du début à la fin. Vous êtes avec moi? La fête de Pourim est une fête qui se passe du début à la fin en exil. Mais bien sûr. Lorsque la fête de Pourim commence, lorsque l'histoire de Pourim commence, est-ce qu'il y avait le Beth Amikdash? Non. Qu'est-ce qu'on faisait à Suze? Parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc toute l'histoire de Pourim se passe en dehors du Beth Amikdash, en exil. C'est la seule fête. Tu prends toutes les autres fêtes. Tu prends par exemple Hanouka. Ça s'est passé à quelle période Hanouka? Il y avait le Beth Amikdash. Donc la seule fête, non mais Kippour c'est pas une fête, Kippour c'est une date qui est biblique, qui est encore avant, qui est encore antérieure, qui est l'époque de Moshe Rabbeinu. Je parle les fêtes suite à un événement. La seule fête qui n'est pas liée au Beth Amikdash, qui est justement en dehors du contexte du Beth Amikdash, c'est la fête de Pourim. Et c'est pour ça, nous aujourd'hui on est en exil, et on se dit bon, la majorité des fêtes tournent autour du temple, les sacrifices du temple, et l'agneau pascal, et ci et ça. Mais tu dis, mais aujourd'hui on appelle le Beth Amikdash, alors comment célébrer la fête? Bon, on va célébrer, mais on sent que c'est pas comme ça aurait dû être. La seule fête qu'on peut dire qui nous parle vraiment aujourd'hui, et qui est vraiment, qui correspond à notre vécu, à notre réalité, c'est la fête de Pourim. Et c'est pour ça ce que tu dis le Baal Shem Tov. Mais là, ça c'est que l'introduction, ce que je viens de dire. C'est expliquer pourquoi on doit s'arrêter plus que pour les autres fêtes sur la fête de Pourim. Parce que dans la fête de Pourim, il y a un message pour t'expliquer comment, au présent, malheureusement en exil, comment un juif peut tenir. Et vous verrez que plus on va avancer dans le cours, et plus on va voir qu'en fait, l'histoire de Pourim correspond à notre vécu aujourd'hui. Comment d'un côté, on voit pas la main de Dieu, mais d'un autre côté, on sait que Dieu est là. mais d'un autre côté on est en exil, mais d'un autre côté on est confiant. C'est un peu le paradoxe que nous vivons aujourd'hui. C'est un peu les conflits dans lesquels nous vivons. Ils vivaient exactement la même chose. Donc à nous maintenant de nous approfondir dans l'histoire de Pourim, pour essayer de comprendre quel enseignement on peut tirer pour nous dans la vie de tous les jours. Alors, pour commencer, on va commencer par l'origine du nom Pourim. Et plus progressivement, on va avancer. D'accord ? On va s'arrêter aujourd'hui sur des notions clés, comme Esther, Pourim, Megillah. Je ne vais pas faire l'oulpane ce soir. Mais vous allez voir, on va prendre des mots clés très faciles à retenir. Et vous allez voir comment chacun de ces mots clés correspond à notre vécu. Alors, on va commencer par le premier mot, Pourim. Pourim en hébreu, ça veut dire quoi ? Quelle est l'origine du mot Pourim ?
C'est un tirage au sort.
Ah, Razak. Alors, Pourim, c'est le pluriel de pour. Pour qui veut dire le sort. Pourquoi ? Parce que Haman, c'est comme nous raconte la Megillah dans la référence numéro 2. Suivez dans les mots, si ça sera plus préférable. Qu'est-ce qu'elle dit, la Megillah ? Hi pilpo hu agoral, le humam ou le abedam. Haman avait consulté le pour, donc le sort, à l'effet de les perdre, donc les juifs, et de les détruire. Alken, c'est pour cela, car ou la yamim a les pourim, c'est pour cela qu'on appelle ces jours-là pourim, alchem ha pour, du nom de pour. Donc pour, ça veut dire le sort. Le sort, quel sort? Le sort qu'Haman avait jeté. Puisque vous savez, si on reprend l'histoire, vous savez que Haman, lorsqu'il a décidé de nous détruire, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait que je choisisse une date et un jour. Donc il a tiré deux fois. Une première fois, il a tiré pour avoir la date, pour avoir le mois. Et il est tombé sur le 12e mois, qui est le mois de Hadar. Et une deuxième fois, il a tiré pour avoir le jour. Et le jour, c'était le 13. Donc le 13, Hadar. Donc Haman a fait appel au sort.
On est sur le même calendrier,
vous ? Mmh. Non, pour nous, pour savoir comment, dans notre calendrier, comment il va nous punir.
Bien sûr. Il a fait dans le calendrier hébraïque.
Quoi ? Non, ça, bien sûr, ça veut dire que dans notre calendrier, quel jour il va sélectionner ?
Une fois, il me semble qu'il avait dit qu'il s'était trompé. C'était la date de naissance, je crois, de Moshe Rabbeinu, et c'est la date de la mort. Enfin, je sais pas, un truc comme ça, ou... non ?
Autre chose, non. C'est qu'il était content quand il est tombé sur le mois de Hadar. Parce qu'il s'est dit, le mois de Hadar, c'est le mois où Moïse est mort.
Donc, ah, ça, oui, voilà.
En tout cas, il est tiré au sort.
C'est vraiment un hasard.
Donc, d'où vient le mot Pourim ? Pourim, ça veut dire le sort. D'ailleurs, comme le dit Ibn Ezra, vous connaissez Ibn Ezra, le grand Ibn Ezra, il dit juste en dessous, Hipilpour, Zot Amila Parsit. C'est un mot en perse. Parce qu'en hébreu, comment on dit le sort ?
Goral.
Donc, Pourim, l'origine du mot Pourim n'est pas un mot en hébreu, c'est un mot en perse. Et quel est le sens de ce mot ? Ufirusha, Goral. Et le sens de ce mot, c'est justement Goral le sort. Ça, ce qu'on vient de dire, c'est très étonnant. Pourquoi ? Parce que normalement, par exemple, dans toutes les fêtes, le nom de la fête exprime la victoire, la solution. Prenons par exemple la fête de Pessah. D'accord ? Pessah, c'est bientôt. Votre femme vous le rappelle peut-être. C'est quoi Pessah ? Pessah en hébreu, ça veut dire quoi ?
Merci.
Non ?
Le saut.
Pourquoi le saut ? Parce que quand on est sorti d'Égypte, Dieu a sauté sur les maisons juives pour ne pas les toucher. Donc vous voyez que le mot Pessah a une connotation positive. Okay. Je pourrais prendre toutes les fêtes. Sukkot, c'est les protections que Dieu nous a fait lorsqu'on était dans le désert, etc. Shavuot, les semaines qu'on a... Chaque fois, même Hanouka. C'est quoi Hanouka ? L'inauguration. L'inauguration du temple après qu'il ait été souillé et après qu'on ait gagné la guerre, on l'a réinauguré encore une fois. Donc, chaque fois, le nom de la fête exprime l'idée du renouveau. Alors que là, Pourim, c'est exprime exactement le contraire. Pourim, ça veut dire le sort. Mais Mordechai n'a pas tiré le sort. Qui avait tiré au sort ? C'est Haman. Donc ça veut dire que là, maintenant, on va faire une fête. Et on dit, mais alors, tiens, alors, imaginez quelqu'un dans la rue, dit, mais qu'est-ce que veut dire Pourim ? Je dis, ben c'est le sort. Mais quel sort ? Ah, vous avez eu de la chance. Non. Le sort qu'on avait tiré contre nous. Et vous appelez votre fête par le nom du sort qu'on a tiré contre vous ? Moi, je sais pas, cette fête, on aurait pu l'appeler, par exemple, Mordechai, Esther, d'accord ? Ou bien Nitzachon, Victoire, je sais pas, sors-moi quelque chose. Mais nous aurons Pourim. A priori, comme on a dit, donc on va lire dans les mots la question. Torno shel kol davar mitgale bishmo. Le contenu de chaque chose se dévoile dans son nom. Ça veut dire que il faut pas prendre à la légère le nom de quelque chose. Le nom qu'on donne. Le nom qu'on donne à une fête, c'est pas juste un hasard. On dit bon bah écoute, ça rime bien, Pourim, ça rime hein. Bon, sans faire de jeu de mots, d'accord ? On dit bon bah écoutez, ça rime bien, alors on a pris. Bonsoir. Non. Il faut savoir que le contenu de chaque chose se dévoile en son nom. Et donc, Shmo shel Hag haya tzarich levate kemo bishar moadim et hanes vehatzala. Le nom de la fête aurait dû exprimer, comme pour les autres fêtes, le miracle du salut d'Israël, du décret d'Aman. Aval Hashem Purim Hashem Hapur, mais le nom Purim du nom du Pour, Moret Dafka l'a éphémisé, indique justement le contraire du miracle. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Vous voyez, c'est une question simple.
Je sais pas, on est pas... que le sort, il était bon ce coup-ci.
Ah ben non.
Ben si.
Ben non, justement, a priori non. On va voir.
Mais après, le sort, il s'est inversé.
Mais pas vraiment. Oui, je comprends, mais de base...
C'est-à-dire que tu peux tirer... Au départ, c'est de 20 vos degrés, mais...
Est-ce que nous, on a tiré au sort?
Non.
Non. Donc, le sort, c'est Aman. Donc, c'est pas la bonne référence. Tu comprends? Ça veut dire, quand quelqu'un, il veut célébrer la victoire, il va pas prendre comme nom, pour célébrer la victoire, hein, le nom de la guerre. On prend le nom de la victoire. C'est clair.
Mais c'est pas logique. Ça.
Donc, c'est pas logique. Vous voyez, on n'est pas parti loin, là. On n'est pas en train de profondeur, on a juste le mot pour Purim. Purim, d'abord, c'est un mot en perse. Bon, déjà, c'est un peu... voilà, d'accord. Contrairement à toutes les autres fêtes qui ont un nom en hébreu, la Purim, c'est un nom en perse. D'accord. En plus de ça, c'est un nom en perse qui exprime le problème, pas la solution.
Le problème, oui,
pourquoi? Ok. Ça, c'est première question. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Deuxième question. Et là, on va aller à la référence numéro 3, donc pour la deuxième question. Une question générale sur la Megillah. Sans rentrer dans les détails, mais c'est une question générale. Vous savez que dans la Bible, nous avons 24 livres. Il y a 24 livres dans la Bible. Il y a d'abord les 5 livres du Chumash, Bereshit, Shemot, Vayikra, Mishnah, Devarim. Après, il y a la suite. Josué, les juges, etc. 24 livres en tout. Dans tous les 24 livres, dans 23 des 24 livres, le nom de Dieu est écrit au moins une fois. Même plusieurs fois. Le seul des 24 livres de la Bible dans lequel le nom de Dieu n'est pas écrit ne serait-ce qu'une seule fois, c'est quel livre? La Megillah. Cherchez dans la Megillah, vous ne verrez pas une seule fois le nom de Dieu. Alors, regardez à quel point c'est dérangeant. Pourquoi c'est très dérangeant de ne pas mettre le nom de Dieu? Référence numéro 3. Bechol à Megillah, dans toute la Megillah. L'oniskar shmo shel HaKadosh Baruch Hu, le nom de Dieu n'est pas mentionné même une seule fois. Beshone mi kol kitve HaKodesh, contrairement à tous les autres livres de la Bible, shebahem muskar shmo shel HaKadosh Baruch Hu, dans lesquels le nom de Dieu est mentionné, kama vechama peamim, plusieurs fois. Bichlal, de façon générale, c'est pas ça ma question sur la Bible. Mentionner le nom de Dieu est une constante chez chaque juif, pas seulement dans la Bible. Dans son parler, dans sa discussion. Shkol Yehudi Shem Shamem Shekor Befiv. En général, chaque juif mentionne Dieu, même lorsqu'il parle de sujets profanes. Par exemple, on demande à quelqu'un comment ça va? Baruch Hashem. Même les gens, la vérité c'est qu'aujourd'hui, même quand ils font des bêtises, ils sont partis faire une bêtise, ils sont partis faire un truc pas très cachère, ils leur comment ça s'est passé? Baruch Hashem. Bezrat Hashem. Et vous allez me dire, oui, mais bon, c'est devenu un réflexe. Oui, mais c'est un bon réflexe. Ça veut dire que c'est un réflexe qui est tellement ancré en nous que c'est naturel. C'est naturel qu'avant de faire un truc, peu importe bon ou mauvais, tu dis, si Dieu veut, Dieu aide-moi, grâce à Dieu, merci Hachem, etc. Ça m'arrive plusieurs fois, ça. De voir des gens qui te font des trucs complètement à côté de la plaque. Tu te sors des bêtises, des fois. Ils te disent, je suis parti, j'ai fait ça hier soir, Baruch Hashem, c'était super. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais que j'étais en boîte, c'était super, Baruch Hashem. Je te raconte que tu mets Baruch Hashem.
C'est plutôt Baruch Hashem que
Tu comprends, tu dis, mais attends.
Baruch Hashem que je suis revenu en bon état.
Alors, c'est un peu, tu comprends. Ça veut dire, le gars, il veut lui dire, c'est quoi Baruch Hashem? Et le juif, il veut lui dire, mais c'est quoi la boîte? Et lui, il a fait les deux en même temps, tu vois. C'était super Baruch Hashem. Comment ça marche? Donc, revenons aux religieux. De façon générale, un juif mentionne toujours le nom d'Hashem. Pas que dans les objets sacrés. C'est sûr que dans les choses sacrées, on mentionne tout le temps le nom d'Hashem. Même dans les choses d'Ivrei Reshout. Même dans les sujets profanes. Toujours on mentionne le nom d'Hashem. Baruch Hashem. Même à l'écrit. Quand tu écris un courrier. D'accord. Comment un juif doit commencer un courrier normalement?
Baruch Hashem.
Comme vous avez en haut de la page. Vous avez en haut de la page?
Ah oui.
Bet He. En haut de la page à droite. Tout le temps. Voilà, c'est un texte de Torah. Mais même quand tu écris un courrier à quelqu'un, un juif, d'accord, en général. Tu écris, comment tu commences ton courrier? Bet He. Bet He, c'est les initiales de Be'ezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Donc, c'est la base d'un juif. La base que même quand tu écris un courrier dans lequel tu vas parler business, tu commences, un juif évidemment, comment tu commences ton courrier? Bet he. ou bien bête sa mère d'Alet, il y en a qui écrivent. Ça veut dire bête sa mère d'Alet, c'est en araméen. Bessiata Adishmaya, avec l'aide de Dieu. Mais tu commences en parlant de Dieu. Comment on peut imaginer dans ce cas-là que dans un livre entier de la Bible, en l'occurrence, Megillat Esther, le nom de Dieu n'est pas mentionné ne serait-ce qu'une seule fois. C'est quand même un problème. D'accord? C'est que c'est grave de dire ça. Parce que c'est une constante chez chaque juif que Akadosh Baruch Hu est présent partout. Et c'est tellement constant chez le juif d'idée que tout le temps il dit Baruch Hashem, Ezrat Hashem.
En même temps, c'est pas un texte écrit à Moshe, Mi-Sinaï.
Voilà, je comprends, mais voilà. Je veux dire,
comme c'est un texte. Oui, mais.
Mais il y a d'autres textes dans la Bible comme ça, qui sont comme ça aussi. Qui ont été écrits par des textes. Qui ont été, tous les.
Oui, tu prends les Tehillim.
Tous les 19 livres, à part le Chumash, ont été écrits après, Moshe Rabbeinu.
Oui. Alors. Tous
le nom de Dieu, c'est normal.
Bien sûr.
Ben, c'est normal. Si déjà, même dans mes affaires, peut-être ça vous est déjà arrivé, des fois tu parles à un non-juif en business, et tu dis Bezrat Hashem, sans faire exprès.
Qui a écrit?
Ou bien même en français, tu dis grâce à Dieu. Ouais, l'autre, il te regarde comme ça, ouais. Et il écarquille ses yeux, et là tu comprends qu'il a dit un truc qu'il n'a pas l'habitude.
Ça dépend, aux États-Unis, ça passe.
Oui, d'accord. Thank God, l'autre, il dit Thank God, attendez, on est dans la laïcité. Mais toi, en vérité, tu le dis des fois sans faire exprès. Et c'est bien, parce que pour toi, c'est ancré. Alors comment on peut imaginer que dans la tête d'une personne c'est ancré, même chez un juif qui n'est pas forcément rabbin, un bon juif, le nom de Dieu est ancré au point qu'il le cite partout, dans ses prières, dans ses affaires, partout, et pourtant, dans la Megillah, un livre entier de la Bible, le nom de Dieu n'est pas cité qu'une seule fois. Donc on a deux questions majeures sur la Megillah. Première question, le nom Pourim, pourquoi le nom Pourim est un nom qui est en perse et qui exprime le problème et pas la solution. Deuxième question, comment ça se fait que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas cité, ne serait-ce qu'une seule fois?
On ne peut pas demander à celui qui l'a écrit. On peut pas demander.
Donc évidemment, c'est pas un raté. C'est pas un hasard.
Bien sûr, ouais, c'est...
Hein, parce que sinon.
Non, mais c'est clair.
Hein, c'est pas... Donc il y a quelque chose.
Qui a écrit la Megillah?
La reine Esther a demandé aux sages de l'écrire l'année d'après. Mais il est évident que c'est pas un hasard.
Donc, et comme je disais, on ne sait pas qui c'est exactement.
Je vais vous expliquer pourquoi, à quel point la question est
un
très
collège, compliquée. Un collège probablement de
sages. Ouais. Je vais vous expliquer à quel point a priori c'est très dangereux de ne pas avoir écrit le nom de Dieu. Parce que nous on est croyants, donc nous on sait très bien que derrière la Megillah se cache le nom de Dieu, se cache la main de Dieu. Mais celui qui ne veut pas croire ça et qui lit la Megillah, c'est une intrigue très belle, c'est une très belle intrigue avec un drame, hein, voilà, on peut le dire, voilà, d'accord, avec un vrai drame qui s'est passé. Et bon, qui s'est passé. C'est un drame, ce qui s'est passé.
Non, il quand même, elle jeûne. Il jeûne, il y a des jours. Donc, on ne jeûne pas pour jeûner.
Oui,
pas.
Je comprends.
C'est pas le fait de jeûner que ça va...
Oui, mais même jeûner, tu jeûnes à qui?
C'est pour ça.
C'est pas les jeûnes à qui. C'est-à-dire, concrètement, quand tu lis la Megillah comme une intrigue, qu'est-ce qui a fait bouger les choses?
C'est le jeûne.
Non. Quand tu lis la Megillah comme une intrigue, tu dis, ce qui a fait bouger les choses, c'est qu'on avait la reine Esther, qui était bien placée, le hasard, la raison aussi. Comment Dieu l'a fait que, je le dis bien, comment on a fait que pile au moment où Mordechai marchait, il y avait Bigtan et Teresh, les deux conseillers du roi, qui étaient en train de comploter pour le tuer, et que Mordechai a entendu ça, et qu'il a raconté, et que grâce à ça, des années plus tard, on l'a ressorti. Voilà. Mais ça, c'est pas écrit, Dieu a fait que Mordechai était là-bas. Ce mot n'est pas écrit. On te raconte comme un texte. Donc, celui qui veut croire que c'est le fruit du hasard, celui qui veut croire que c'est un bon lobbying parce qu'on avait la reine Esther qui était bien placée, celui qui veut croire qu'on a eu un coup de chance, il peut croire sans aucun problème. Ça passe. Et donc, si on avait écrit le nom de Dieu, ça aurait été peut-être plus facile. Non, on se dit, écoute, voilà, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. C'est pas écrit une seule fois que Dieu a fait. Ni Dieu l'a mis le problème, ni Dieu l'a enlevé. On dirait que c'est une histoire qui se passe comme ça. Pourquoi?
Oui, mais
comme
là, c'est caché.
Il est caché.
Ah. Ce sont des gens, des érudits qui ont écrit ce texte-là.
Donc ça ne fait qu'amplifier la question.
Et donc la première chose, c'est Be'ezrat Hashem, puisqu'on doit écrire.
Oui.
Ils ne l'ont pas fait.
Et donc ça amplifie la question.
Mais c'est parce que Dieu leur a demandé de ne pas l'inscrire. Forcément. C'est pas eux-mêmes qu'ils ont pris l'initiative de dire j'écris pas le nom de Dieu.
Encore faut-il comprendre pourquoi.
Oui, mais ça peut être que ça. On ne peut pas imaginer que des érudits ou des.
Ça veut dire pourquoi Dieu ne veut pas qu'on mette son nom.
Voilà, ça c'est ça la question. C'est plutôt ça la question.
C'est un texte sacré.
C'est plutôt ça la question.
C'est comme Yves, il a raison. Si c'est un texte sacré, c'est un texte qui a été inspiré par Dieu.
Bien sûr.
Donc apparemment, c'est un texte qui est inspiré par Dieu.
Mais dont Dieu veut pas qu'on.
Dans lequel Dieu ne veut pas apparaître.
Voilà.
Ouvertement.
C'est plutôt ça.
Pourquoi?
C'est passé à la position de ce qui se passe aujourd'hui.
Ah, donc vous voyez, en fait, plus on va avancer dans le cours, et plus vous allez voir que.
C'est-à-dire que Dieu est présent, mais on ne le voit pas.
Plus on va avancer dans le cours et plus on va voir que ça correspond à notre vécu, à notre réalité. la réalité d'aujourd'hui, dans laquelle le nom de Dieu n'est pas écrit. Mais, si, mais il faut le chercher pour le trouver. Ok ? Bon. Alors, on va passer à la référence numéro 4. En fait, la clé de la réponse à cette question, mais il faut qu'on développe, hein, il faut au moins une bonne demi-heure pour développer ça.
Tu peux chanter, c'est...
Tu peux chanter, hein, avec...
Hein,
ah. Avec la sonnerie, tu sais qui c'est, t'appelles ? Et quand c'est ta femme qui appelle, c'est quoi ?
C'est plutôt dramatique. C'est plutôt dramatique.
Ok. Bon, on continue. Alors, la clé de la réponse...
Là, c'est rock'n'roll.
La clé de la réponse se trouve dans le mot Megillat Esther. Megillat Esther. On va analyser point par point. On va commencer par le premier. Enfin, le deuxième mot, Esther. Esther, en hébreu, bon, c'est un prénom, Esther. C'est un présent. Mais quelle est l'étymologie du mot Esther ?
Caché.
Alors, lisons ensemble. Oh. Esther, référence numéro 4, c'est la Gemara Choulin, dans le traité Choulin, qui nous dit la chose suivante. Esther, mina Torah, minaïn. Où est-il fait allusion à Esther dans la Torah ? Réponse de la Gemara. Ve'anochi Aster Astir Panaï.
Voilà.
Et moi, donc Dieu dit, caché, je me cacherai. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là-bas, dans la paracha, si je ne me trompe pas, dans la paracha Vayeler, voilà, là-bas, dans la paracha Vayeler, Kadosh Baruch Hu dit, Ve'anochi Aster Astir Panaï Bayamahu. Kadosh Baruch Hu dit, je me cacherai. Mais pas je me cacherai, caché, je me cacherai. Il y a un principe dans la Torah qui dit que chaque fois qu'un mot est répété deux fois, ça implique le fait qu'il faut, il faut doubler la notion. Par exemple, si c'est écrit prendre, je prendrai, c'est-à-dire tu vas prendre de façon très forte. Si c'est écrit donner, je donnerai, c'est-à-dire tu vas donner doublement. Et lorsqu'il est écrit cacher, je me cacherai, c'est-à-dire que Dieu va doublement se cacher. Des fois, il se cache, mais tu sais qu'il est là. Mais quand il se cache, on te dit cacher, je me cacherai, c'est-à-dire qu'il se cache grave. Et la Gemara pose la question, elle dit où on trouve une allusion dans le Chumash à Esther, c'est dans le Pasouk de la Parasha Vayeler, qui parle du voile d'Akadosh Baruch Hu, dans lequel Dieu dit « je me cacherai ». Donc le mot Esther veut dire « voile, caché ». Maintenant, j'ai pas fini. Megillah. Quelle est l'origine du mot Megillah ? Megillat, ça c'est le Torah Or qui explique de l'Admor HaZaken, Megillah, Milashon Giloui. Megillah vient de la même racine que Giloui. Giloui qui veut dire le dévoilement. Donc là, ah ben voilà. Donc là, en vérité, on a le mot Megillat et le mot Esther qui se contredisent.
Oui.
Parce que Megillat veut dire le dévoilement, Esther veut dire caché. Donc c'est un paradoxe. C'est le dévoilement du caché. Mais si tu dévoiles le caché, donc il n'est plus caché.
Ah oui.
Et si tu le dévoiles, enfin, et si il est caché, tu peux pas le dévoiler.
Non, tu dévoiles qu'il est caché.
Ah non, justement.
Ah.
Justement, c'est littéralement, ça veut dire le dévoilement caché.
Le dévoilement du caché.
Non. Megillat Esther, c'est le dévoilement caché.
Donc c'est que dans Megillat, tu en cherches un
autre. Non, mais
alors, c'est plus un dévoilement.
Ah ben voilà.
Ah oui.
Ou tu dis que c'est un dévoilement, il n'est pas caché. Ou tu dis que c'est caché, dans ce cas, tu n'as pas dévoilé. Mais le dévoilement caché, ça ne marche pas. Et pourtant, tu prends l'étymologie du mot Megillat Esther, c'est le dévoilement caché. Alors dévoilé ou caché ? C'est un paradoxe. Et bien en fait, ce qu'on va expliquer, c'est que ce paradoxe, on le retrouve aussi dans la fête de Pourim. C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Référence numéro 4 en bas. Keshem Shebeshem HaMegillah. De la même façon que le paradoxe, nous avons trouvé un paradoxe dans le nom de la Megillah. Megillat Esther. Un dévoilement caché. Un dévoilement caché. Très bien. Ken Matsinu Bechag HaPourim Atzmo. Ce même paradoxe, on le retrouve dans la fête même de Pourim. Mechad Gisa, d'un côté, Shmo Shalachag ou Pourim. Le nom de la fête est Pourim. Qui est, rappelons-le, Sheoul Hashan Parsi, c'est un nom en perse, Venitan Hashem Inyan Akashon Lexera, et qui de surcroît rappelle le décret, comme on vient d'expliquer. Venitan Inyan Shel Elem Vester, ce qui implique une période où tout est occulté. Mais d'un autre côté, ou Leidar Gisa, et de l'autre côté, Yemei Purim, les jours de Purim, em yemei mishte v'simcha, ce sont des jours de festin et de joie. Arbe yoter mishar amoadim, bien plus que les autres fêtes, ad delo yada. Au point que, vous savez, quand on dit que la simcha de Purim, on doit le faire ad delo yada, c'est quoi delo yada? Qu'on va tellement dire les chaim, au point de ne plus reconnaître entre Arur Haman et Baruch Mordechai, ça veut dire qu'on a une simcha qui dépasse toutes les limites. Alors moi, j'aimerais comprendre cette histoire, parce que, de deux choses l'une. Où tu me dis que l'événement est exceptionnel, donc dans ce cas-là, on va avoir une joie exceptionnelle. Mais si tu me dis que l'événement n'était pas si exceptionnel que ça, puisque de toutes les façons, c'est un événement où tout est caché. Alors si tout est caché, donc la joie est cachée. Bah oui, parce que tu me dis le dévoilement caché. Donc si tu me dis que le dévoilement il est caché, donc dans ce cas-là, la joie doit être en demi-teinte. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? De toutes les fêtes, quelle est la fête la plus joyeuse?
Oui.
La fête de Purim. Ça veut dire qu'on voit d'ici, il faut qu'on explique pourquoi, parce que là on fait que poser les pions là. Mais il faut qu'on explique pourquoi. Qu'en vérité, c'est pas un hasard si d'un côté, le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas écrit dans la Megillah. D'un côté, effectivement, Purim est un mot en perse. D'un côté, Purim exprime le problème, le sort d'Aman. Mais d'un autre côté, Purim est la fête la plus joyeuse de notre histoire. Pourquoi? Apparemment, il y a quelque chose. Megillat Esther, un dévoilement caché. Il y a un paradoxe dans la fête de Purim, que d'un côté c'est une occultation comme on n'a jamais vu, on est en exil, et d'un autre côté c'est un dévoilement qu'on n'a jamais vu. Pourquoi? Comment ça marche? Alors pour répondre à cette question, on va tourner la page, on va commencer avec Hachem à développer. D'accord? Donc là vous avez, si vous voulez, le fil du cours. Où on veut en arriver? On veut montrer comment d'un côté Purim est un moment où Dieu se cache, et d'un autre côté Purim est un moment dans lequel, au contraire, Dieu, en tout cas, et le plus dévoilé possible, est une grande simcha. Alors on y va. Tourne la page. Comment on dit en français? On dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Ça veut dire que là, on a l'impression on a l'impression que l'histoire de Purim, c'est un peu un très loin. C'est-à-dire, d'un côté, tu me dis Dieu il se cache, mais d'un autre côté, tu sais quoi? Il est encore plus présent que les autres fêtes. C'est pour ça que la joie est plus présente. Je comprends pas. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres fêtes? Dis-moi le nom d'Hachem. Hachem, il a dit. Hachem, il a fait. Baruch Hachem, etc. Mais à quoi tu joues? Ok. Alors, en vérité, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On va reprendre l'histoire de la Megillah. Et on va voir comment, lorsque l'histoire se passe en temps réel, on peut très rapidement passer à côté de la plaque et ne rien comprendre à ce qui se passe. Et là, on va apprendre l'enseignement de Mordechai et d'Esther, qui vont être les acteurs principaux de la Megillah. Et qui vont nous raconter, qui vont nous expliquer comment un juif doit réagir par rapport à devant ces situations. Mais on va expliquer. D'accord? Donc on va prendre, on va revenir à l'histoire de la Megillah. Revenons à l'histoire de la Megillah. Alors, au début de la Megillah, on nous raconte, donc lorsqu'on nous raconte comment Dieu pose les pions. Bon, on ne dit pas le mot Dieu, mais c'est comment Dieu pose les pions. Rappelons-nous. Achashverosh avait une femme qui s'appelait comment?
Vashti.
D'accord? Par un concours de circonstances qui était clairement manigancé par Akadosh Baruch Hu, Vashti a eu des boutons partout, donc Achashverosh il l'a appelée pour la montrer, elle pouvait pas venir, parce qu'elle voulait pas venir, on a dû la destituer ou la tuer selon le Midrashim, en tout cas, on s'est débarrassé de Vashti. Donc si on s'est débarrassé de Vashti, c'est-à-dire que maintenant la place est libre. La voie est libre pour qui?
Esther.
Pour une nouvelle reine. Alors on va faire la sélection de Miss Monde en vérité, parce que c'est Achashverosh, c'était le roi pratiquement du monde. Donc on va faire la sélection pendant plusieurs années, d'accord, pendant 2 ans, bien sûr, ça va durer 2 ans, juste pour voir Achashverosh, il y avait déjà un entraînement des cures, etc., pendant Shisha Chodashim Shemanamor, Shisha Chodashim Avsamim. Ça veut dire que 6 mois avec des huiles pour refaire la peau, et 6 mois avec des parfums.
C'est
préparation. Ah oui, comme tu reviens comme ça, je roche, bien sûr. Donc la voie était libre. La voie était libre pour qui? Pour Esther. Maintenant tu aurais pu dire, oui, mais Esther, c'est pas la seule.
Il y en avait d'autres.
Là, très bien. Maintenant Dieu a fait que, alors très bien, concurrent, très bien. Vayehav Amelech et Esther Mikol Anashim. Très bien. Le texte nous raconte, dans la Megillah, que le roi fut pris d'affection pour Esther, plus que pour les autres femmes. Donc ça veut dire que Esther avait plu Achashverosh. Achashverosh était tombé, si j'ose dire, sous le charme d'Esther. Donc ça c'est pas mal, ça nous intéresse. Parce que si Esther plaît à Achashverosh, oui, ça veut dire qu'elle saura obtenir ce qu'elle a besoin.
Oui.
Okay.
Mais Esther était libre à ce moment-là.
Mais elle est devenue la reine.
Non, mais avant qu'elle soit la reine.
Oui, elle était libre, bien sûr. Elle n'était pas mariée. Vayamlichéha tachat Vashti. Et donc le texte nous raconte que il la proclama reine à la place de Vashti. Donc déjà, on a ici une femme qui est très bien placée. Je veux dire, la personne la plus proche du roi, c'est qui? C'est la reine. C'est même le premier ministre, il n'est pas aussi proche du roi que la reine. En plus, si elle lui plaît. C'est pas juste une histoire de famille, on lui a imposé parce qu'elle vient d'une famille royale. C'est souvent comme ça dans les grandes familles. C'est-à-dire, depuis qu'il est petit, on lui a imposé, quand tu seras grand, tu vas te marier avec un tel. Et dès qu'on prend une femme qui n'est pas, une femme ou un garçon qui n'est pas, enfin, surtout une femme en général, qui n'est pas de la lignée, on dit d'où elle a sorti celle-là. D'accord?
Une roturière.
Hein, une roturière, ouais, voilà, je voulais pas dire ce mot. D'accord, non, mais voilà. Donc là, si vous voulez, Achashverosh, Esther lui a plu. Et Esther, elle vient de nulle part. Donc Esther, voilà, elle est là, elle a plu Achashverosh. Donc c'est pas mal. Maintenant, parlons de Mordechai. Qui était Mordechai à ce moment-là? Au Mordechai, Yoshev et Shar Amelech. Mordechai nous raconte la Megillah, dans chapitre 2, était assis à la porte du roi. Ça veut dire quoi, assis à la porte du roi? Assis à la porte du roi, comme expliquent les commentaires, c'est-à-dire qu'il était ministre. C'était un des ministres d'Achashverosh. D'autant plus que Mordechai avait obtenu la haute estime, la plus haute estime d'Achashverosh, puisqu'il avait sauvé la vie. Lorsque Mordechai, qui comprenait plusieurs langues, a eu vent du projet visant à tuer Achashverosh, d'accord, Mordechai a raconté ça à Achashverosh, il a sauvé sa vie, donc bien sûr, en plus du fait que c'était un ministre, c'est le ministre qui m'a sauvé la vie. Donc on a quand même deux personnes extrêmement bien placées dans le palais. Donc il n'y a pas de problème. C'est quand je vois ça, j'imagine. C'est-à-dire qu'à l'Élysée, tu as la reine. Enfin, l'Élysée, c'est pas, c'est la 5 ans plus, c'est le roi. Tu as la reine, elle est juive, et un des plus hauts conseillers qui a sauvé la vie. C'est-à-dire d'abord, c'est un conseiller, c'est un ministre. En plus de ça, le roi a une dette envers lui. Il m'a sauvé la vie. Donc, quand tu vois ça, lorsqu'il y a un décret qui arrive, t'as aucune raison de t'inquiéter.
Et malgré tout ça,
On est d'accord? On est d'accord? Donc là, si on réfléchit comme des êtres humains, si on réfléchit comme des hommes, on se dit, bon, écoute, tranquille, on passe haut la main. C'est pas un problème. Mordechai va glisser un mot, la reine Esther va glisser un mot, Achashverosh va se débarrasser de Haman, et Nigmar et Massipour. C'est fini avec ce parti de l'extrême droite qui nous en kikine. C'est tout. Et pourtant, comment réagit Mordechai? Au lieu de dire, lorsqu'on apprend qu'il y a un décret comme ça, qu'est-ce qu'on dit faire Mordechai? On dit, attends. On va d'abord essayer de régler le problème à l'amiable. On va essayer de régler le problème de façon diplomatique. C'est vrai, c'est la démarche que nous aurions eue. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, d'abord, on dit, écoute, on a des gens bien placés. On va essayer d'abord de faire avancer les choses de façon par voie diplomatique. Et si on n'y arrive pas, là, on va sortir les gros moyens. Là, on va commencer à pleurer, à prier, etc. Mais d'abord, on va essayer de... On va utiliser les cartouches qu'on a entre nos mains. Et pourtant, Mordechai ne réagit pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Nous raconte la Megillah dans le chapitre 4, juste en dessous. Où Mordechai yada et kol asher nasa. Or, Mordechai, ayant eu connaissance de tout ce qui s'était passé, va écrire Mordechai de Begadav, il déchira ses vêtements, va il bashak, va efer, se couvrit d'un cilice et de sang, je sais pas si vous imaginez la scène, un ministre, d'accord? Et va yel sebetor haïr, il parcourut toute la ville, va isaac zakak de la Oumara, en poussant des cris véhéments et amers. Vous imaginez le grand Mordechai avec la tunique, la djellaba royale, et là il est là avec des cilices, des vêtements déchirés, et il est là en train de crier dans toute la ville, ah, ah, Maboul, il est Maboul, complètement fou. Mais alors, quand tu te mets à la place de Mordechai, mais attends Mordechai, t'as essayé de parler à Achashverosh? Lui dis un mot. T'as essayé de lui parler? Non. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Où les tzavot aléa, il lui recommanda à Esther, la voie et la meler de se rendre chez le roi, les tranenlo ou les vakesh milfana valama, afin de lui présenter une supplique et de solliciter en faveur de son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'envoyer Esther pour aller parler à Achashverosh, qu'est-ce qu'il fait Mordechai? D'abord, il pleure. D'abord, il est en train de supplier à Kadosh Baruch Hu. Nous, on n'aurait pas forcément réagi comme ça. Quand t'as un problème et tu sais que t'as des très bons outils en main pour défendre, tu dis attends, je lui passe un coup de fil.
Je vais le voir direct.
Attends, je lui passe un coup de fil, c'est pas un problème. Je le connais, j'ai son portable.
En plus, ça se traite.
J'ai le portable personnel d'Achashverosh.
Ça se traite d'homme à homme.
Bien sûr, ça se traite d'homme à homme, etc. Mordechai, il réagit pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? D'abord, il pleure. D'abord, c'est pas rien s'habiller de haillons. C'est ce que ça veut dire. Il s'habille avec des vêtements déchirés, il traîne dans toute la ville. Vous imaginez, c'est comme si je vous dis, par exemple, le rabbi, tu vois. Le rabbi qui se balade, qui fait tout New York ou tout Jérusalem, quoi vous voulez, avec des vêtements déchirés. C'était le rabbi, c'était un rabbi. C'est-à-dire que les gens étaient choqués quand ils voyaient ça. Donc, les gens, ils voyaient ça, ils se mettaient à pleurer aussi.
Il s'abaisse aux yeux des gens.
C'est pas qu'il s'abaisse. C'est qu'il est en train de leur faire passer un message que l'heure est grave. T'as essayé de parler à Achashverosh? C'est seulement une fois qu'il a pleuré, qu'il va voir Esther, et qu'il lui dit, qu'il lui fait passer le message, qu'il lui dit, il faut parler à Achashverosh. Bienvenue.
Accepter de tuer des sujets qui lui appartiennent.
C'est notre problème.
Alors qu'ils n'ont rien fait.
Ça, c'est notre problème. C'est notre problème. Là, j'ai une question de fond. Une question. Alors, c'est dire. D'accord. Maintenant, j'ai pas fini. La reine Esther aussi a réagi comme ça. D'accord. Comme on a expliqué pour ceux qui étaient là au cours ce matin. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit que la reine Esther. Alors, au début, lorsque Mordechai lui a dit, elle a dit, on va voir, etc. Alors après, Mordechai lui a dit, écoute, si c'est pas toi qui y vas, Revar Vatsalay Amadlaudim Makomacher. Le salut viendra d'ailleurs. Et alors là, Esther se ressaisit, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit, Esther? Qu'est-ce qu'elle dit, la reine Esther? Lisons ensemble dans la Megillah. Référence numéro 5, troisième partie. Va tomer Esther, la Shiv el-Mordechai. Esther fit porter cette réponse à Mordechai. L'air! Knos et kol ha'yudim nimtzeim be'shushan. Va! Rassembler tous les juifs présents à Suse. Vetsu mo'alai. Et jeûnez à mon intention. Ve'al tochlu. Ve'al tishtu. Ne mangez pas. Ne buvez pas.
3 jours.
Shloshet yamim, laila vayom. Pendant 3 jours, ni jour ni nuit. C'est-à-dire 3 jours consécutifs.
Consécutifs.
Bien sûr. Ah, comment ils ont fait justement? Gamani venarote et tsumket. Et rajoute ce point très important.
Moi aussi
et mes suivantes, ça veut dire mes servantes, d'accord? Je jeûnerai de la même façon. Ouvechen, avo la melech, achar lochadat. Et puis, je me présenterai au roi de cette façon. Donc ça veut dire que la reine Esther,
elle va devenir moche.
Elle va être moche.
Elle va devenir exactement.
Ah, c'est ça.
Ben voilà. Oh, donc, là, on est en train de détruire nos atouts.
Ouais.
Tu es en train de défoncer, je m'excuse du terme,
ouais,
tes atouts. Tu avais 2 atouts majeurs. L'atout de la beauté.
Ouais.
Et la reine Esther est belle, elle plaît à Achashverosh. Et l'atout du ministre, qui est respecté, que Achashverosh tient en haute estime. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'esquinter ces 2 atouts. Mordechai, il vient, il se balade en cilice, en haillon dans toute la ville, du style bon, il est devenu fou. Et la reine Esther, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jeûner pendant 3 jours, jour et nuit. Elle ne peut que s'en les dire. Regardez de quoi on a l'air après une demi-journée de jeûne. Imaginez une femme, d'accord? Une reine, après 3 jours de jeûne, nuit et jour. D'accord? 3 jours de jeûne, c'est ce qu'il y avait 3 jours de jeûne? 72 heures. C'est-à-dire, imaginez dans quel état elle était et elle n'ira pas manger avant d'aller voir Achashverosh. À l'issue de ce jeûne, de ce pas, elle ira directement voir Achashverosh. Donc a priori, elle est en train d'enlever toutes les chances qu'elle avait. Toutes les chances, d'autant plus qu'elle a un vrai problème. Achashverosh ne l'a pas convoqué, ça fait 30 jours. Donc s'il l'a pas convoqué, c'est qu'il n'a pas envie de la voir.
Ouais.
S'il n'a pas envie de la voir, c'est qu'il n'a pas envie de la voir. D'accord? C'est que peut-être qu'il a trouvé autre chose, j'en sais rien. En tout cas, elle n'a pas envie de la voir. Donc elle a intérêt à se faire la plus belle possible pour essayer de l'amadouer, de le faire tomber sous le charme. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, de le récupérer. Et là, qu'est-ce qu'elle fait?
Au contraire.
Elle arrive. Alors certainement qu'elle était belle, j'espère pour elle. D'accord? Mais a priori, c'était pas la chose à faire. C'était tellement plus simple. Dès qu'on apprend le décret, elle se maquille, elle se fait belle, Mordechai glisse un mot, elle envoie une missive, et l'affaire est réglée. Non. Pourquoi? Pourquoi on le fait pas? D'accord? Seulement, l'explication est la suivante. Mordechai et Esther ont bien compris que lorsqu'il y a un problème qui nous arrive, nous, on a souvent tendance à dire, ah, il y a un problème. Ah, mais c'est à cause d'Aman. Alors, on va s'occuper d'Aman. Ah, c'est à cause d'Achashverosh, on va s'occuper d'Achashverosh. Oui. Ah, c'est à cause du banquier, on va s'occuper du banquier. Oui. On dit, mais Khmar, t'as rien compris. Non, c'est pas toi, je dis Khmar. D'accord? On dit, non. Bien sûr, ça nous concerne tous. Surtout en galoute, en exil. On dit, qu'est-ce que t'as pas compris? Ce que t'as pas compris, c'est que derrière ce Haman qui est venu ici, ce petit Khmar qui est venu,
qui
l'a envoyé, ce Haman?
Ah. Oh.
C'est Hachem. Donc toi, tu dis, ah ben Haman, il va voir, on va lui faire la peau. Oui, mais attends, mais qui a envoyé ce Haman? Qui a fait que tu plais à Achashverosh? Qui l'a envoyé, ça, man? Qu'est-ce que tu crois? Et là, quand tu réfléchis à ça, tu comprends, tu dis, ah! Donc, c'est un décret qui m'a été envoyé par Dieu. Donc, avant d'essayer de régler le problème,
avec le
physiquement, naturellement, diplomatiquement, il faut d'abord régler le problème spirituellement, qui est le vrai problème. Et ça, on va développer. D'où on apprend ça? Maïmonide. Dans la référence numéro 6, il développe comme ça. Il dit, dans les ilchot ta'aniyot, dans les lois des jeunes. Ve davarze midarke atshuvaou. Ceci fait partie des chemins du repentir. Shemizman shetavot Sara, lorsque vient un malheur, veizaku alea, que l'on implore Dieu pour ce malheur, veyariu, et qu'on va sonner des trompettes, parce qu'à l'époque on sonnait des trompettes pour dire bon, revenez, d'accord? Yedou akol, tous sauront shebiglal maaseh amaraim uralaem, que ce mal est venu du fait de leurs mauvaises actions. Vezeu sheigram lahem la sirat sarah maliem. Et c'est le repentir qui permettra d'écarter le malheur. C'est pas le contact que tu as au bon endroit. Pourquoi Dieu a envoyé le malheur? Parce qu'il y a un problème. Faut faire tchouva. Et quand tu feras tchouva, tu vas régler le problème en haut. Et quand tu vas régler le problème en haut, automatiquement le problème sera réglé en bas. Aval, Medi Maïmonide, Im Loïs Aku Velo Yariu. Par contre, si les Juifs n'implorent pas Dieu, ni ne sonnent, et la Yomrou, mais qu'ils disent Davarzel, Mina Golam Iral à nous. Cette chose nous est arrivée naturellement. C'est le cours des choses. C'est la vie. D'accord? Zé Gorem Laem, Leïdabeg Maasem Araim. Cela les conduira à poursuivre leurs mauvaises actions. Parce que si tu n'as pas compris qu'il y a la main d'Hachem derrière tout ça, qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, bon, bah c'est la vie. Ah bon? Ah, on a une mauvaise chance, on a une malchance. Bon, la prochaine fois, ce sera mieux. C'est pour cela, te dit Maïmonide, lorsqu'on avait un problème, d'ailleurs, pour ceux qui viennent au cours de Gemara le dimanche matin, j'invite d'ailleurs ceux qui ne viennent pas encore à nous rejoindre le dimanche matin. Qu'est-ce qu'on parle là-bas dans le cours de Gemara le dimanche matin? On fait Maseret Ta'anit, le traité de Gemara qui parle des jeûnes. De quoi on parle là-bas? Justement, on te dit que chez nous, les Juifs, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne. Pourquoi tu jeûnes? Règle le problème. Mais règle le problème. C'est quelle est la réponse? Oui, mais après, le jeûne, c'est un détail. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de jeûner, donc on jeûne pas. Mais c'est le concept qui m'intéresse. C'est que quand un Juif, il a un problème, quand un Juif a un problème avec un concurrent, avec un problème avec l'État, avec qui tu veux un problème, il se fait du tombe. Tout d'un coup, il reçoit un courrier, vous devez tant. D'où il sort ce problème? Pourtant, il sait pas d'où ça vient. Alors, lui, il pense avoir raison, donc il va devoir se défendre, et les avocats, et tout. C'est compliqué. Alors, quelle est la réaction humaine? Tiens, ils vont voir, je vais leur montrer. Eh bien, bête, tu vas leur montrer parce que tu penses que t'es dans ton droit, donc tu vas leur montrer. Mais c'est ce qu'on te dit. On te dit, là, t'as réfléchi de façon simpliste. T'as pas compris que derrière ce problème, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Hachem. Donc quand tu me dis le problème, en vérité, tu me dis Hachem. Enfin, c'est pas ce qu'il dit ici. Non, j'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que quand il y a un problème, ça vient d'Hachem. Donc avant de régler le problème matériellement, il faut d'abord régler le problème spirituellement. Et ça explique, c'est la raison pour laquelle Mordechai et Esther, lorsqu'ils étaient confrontés au problème...
Encore faut-il trouver le problème spirituel.
Non, mais là, ils ont tout de suite compris. C'est qu'on a un problème d'assimilation.
Mordechai, il a compris. Il y a quand même le décret.
Oui.
La différence, c'est que c'est pas un décret qui concerne... C'est pas quelque chose qui concerne une personne. Donc, c'était un ensemble. Après...
Oui, je comprends.
Par rapport à d'autres périodes...
Mais n'oublions pas que... J'entends ce que tu dis.
Parce qu'il y a deux périodes où ils ont pu faire teshuva. Mais est-ce que c'est-à-dire... Ou demander à Hachem, de la même façon. Alors, il y en a qui ont demandé, d'autres qui n'ont pas peut-être demandé. Mais comment peut...
Je vais te donner un exemple. Toi, tu es du monde de l'entreprise. D'accord? Imagine-toi, par exemple, que t'as une personne de ton entreprise qui vient te voir et qui te dit, tu sais, j'ai appris que je vais être licencié. Mm-hmm. Et je suis très embêté parce qu'à mon âge, je sais pas, je pourrais retrouver un travail, etc. Très, très embêté. Mm-hmm. Et il est là, il a envie de faire une manifestation, de faire sauter la boîte. Mm-hmm. D'accord? De bloquer le patron dans son bureau, etc. De faire de comme il sait faire, d'accord? Chemise. De faire, gilet jaune. D'accord? D'arracher la chemise. D'accord? Bon, très bien. Et toi, Yves, tu connais très bien le patron. Alors tu dis, écoute, calme-toi. On va l'appeler Bertrand. Calme-toi, Bertrand. Je vais glisser un mot au PDG, je le connais. Il s'appelle Maurice. Je déjeune avec lui demain, dans le restaurant cachère. T'inquiète pas, je le glisse un mot et tout va se régler. Si maintenant, Bertrand, il va te dire, non, Yves, je veux scander, je veux gilet jaune. On dit, mais t'as pas compris, ça tu feras quand ça marche pas. Mais d'abord, moi j'ai une opération, moi je suis bien placé, je vais glisser un mot pour toi, c'est rien, c'est une phrase, c'est un mot, ça me fait plaisir, etc. Si l'autre il insiste, il requique, tu dis mais il est remar. Donc on a un peu cette impression avec Mordechai et Esther. Ils ont en eux des atouts majeurs. La reine, lui c'est un ministre que le roi tient en haute estime, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en train d'être là, jeûner, les vêtements en haillons, etc. Pourquoi? C'est pas logique ce qu'ils font, il n'y a aucune logique. Seulement c'est ça la réponse. La réponse c'est qu'en vérité... Ils ont compris Mordechai et Esther, ils ont très très bien compris que derrière ce problème qui leur arrivait subitement, ils étaient bien placés, tout était bien. On était bien intégrés, on était intégrés à Suse. On a une reine qui est juive, on a un ministre qui est juif, on est bien on a du travail, on est intégré, on est respecté, on est apprécié, on est des bons Algériens, d'accord? Donc, voilà. Voilà. La France les Tunisiens, ils ont un ministre juif aussi. Alors, hein. Donc on est bien installé. On est bien installé. Alors voilà.
On est dans le confort.
On est dans le confort. C'est bien, tout va bien. Tout va bien. Pourquoi tu veux qu'on se prenne la tête? C'est ça ce qu'ils ont compris. Ils ont compris, Mordechai et Esther, je vous disais, ils ont compris que le problème n'est pas là. Comment tout d'un coup ça nous arrive? Comment tout d'un coup t'as un parti qui vient et qui dit je vais tous vous tuer? Et Achashverosh a dit oui, on va tous les tuer. D'où ça sort ça? Alors, si t'es une personne qui sait pas réfléchir, qui réfléchit comme un tordu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bah écoute, c'est Haman le problème, on va lui envoyer un commando, on va se débarrasser de lui. Maintenant, c'est vrai qu'un commando, ça aurait fait du bien, ça pour faire des belles opérations, mais ça n'aurait pas le problème. Parce que qui a envoyé ce Haman? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc on va envoyer le commando pour s'occuper d'Haman. Mais avant d'envoyer le commando pour s'occuper d'Haman, on va d'abord lever les yeux vers le ciel, pour dire Akadosh Baruch Hu, on a compris l'appel de Pharaon, on revient vers toi et on s'occupe d'Haman. Et là, ça marche. Oui. Voilà pourquoi. Oui, voilà pourquoi.
C'est une prise de conscience du chef de la génération.
Oui.
Tu as raison. Et qui a pu le transmettre à l'ensemble.
Il faut une vue d'ensemble d'un chef de la génération pour te dire où il y a un problème. On a un problème ici.
Voilà.
Tu as raison. Non, tu as raison parce que je pense que le peuple n'était pas angoissé du tout. Le peuple se disait bon, c'est rien. C'est. Et
apparemment, le peuple aussi.
Le peuple devait se dire bon, c'est un Le Pen qui est là. Il parle beaucoup. Il aime bien parler, mais faire l'intéressant. Bon, il a un peu de sous. On va le calmer.
Mais il avait de l'écoute de la part des Juifs apparemment.
Qui? C'est ça. Qui avait de l'écoute?
Mordechai.
Bien sûr.
Alors que donc,
c'était le chef de là-bas.
Oui, mais quand on dit on va décréter que tous vont jeûner et autres, c'est-à-dire qu'elle est sûre que tout le monde va faire.
Évidemment.
On aurait pu imaginer ça, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, que s'il y avait quelqu'un de la génération d'IH.
Qui veut dire, exactement, bien sûr, 100%.
Non, c'est pour faire un...
100%. Pour faire un parallèle, oui.
Clair, parce que tu penses pas si c'est très dur, c'est-à-dire quoi, alors? Tu penses du principe, c'est-à-dire que...
Que quoi?
C'est à chaque guerre militaire, en ce cas.
Parce que...
Parce que tu crois que quelqu'un peut faire quelque chose ici sans l'accord de Dieu?
Non.
Non, mais non, je sais pas.
Que tu sais pas.
C'est la réponse.
C'est sûr. Oui ou non?
Il y a bien eu quand même.
C'est pas parce que je comprends pas le chemin de Dieu que qu'il n'est pas là. Je comprends pas ce qu'il a fait. Mais c'est clair qu'il est derrière.
Mais il y a bien eu des personnes qui ont jeûné.
Évidemment, Hachem aurait pu lui envoyer une simple crise cardiaque, le problème aurait été réglé en deux temps trois mouvements. C'est tout. En un coup. Donc il y a quelque chose. Alors après, il sera puni parce qu'il a les idées d'être le bourreau, etc. Je rentre pas dans la question. Mais c'est clair qu'il y a une volonté de la chaîne derrière. Pourquoi? J'en sais rien. Je ne la comprends pas. Je ne sais pas si un jour on la comprendra. Pourquoi c'est très grave? Au contraire.
Bah oui.
Pour moi, je vais dire quelque chose. Pour moi, c'est beaucoup plus rassurant de savoir que ça vient d'Hachem mais que je ne comprends pas. Que de me dire que c'est un raté de Dieu que c'est passé entre les mains du filet.
Non, c'est sûr. C'est évident.
Ben pour moi, je préfère dire que ça vient de Dieu, mais je comprends pas. C'est plus, en tant que juif croyant, c'est plus rassurant pour moi.
Oui. Ça vient de Dieu, c'est sûr.
Ça vient de nous, finalement.
Non. Non, attention. Ça vient de Dieu suite à notre comportement. Non, ça vient pas de nous. Ça vient de Dieu suite à notre comportement.
On a expliqué vendredi matin que si on se détache de Dieu, finalement, le loup, il nous pourra plus.
J'ai compris. Très bien, mais c'est... Mais...
Donc, finalement, ça vient pas de Dieu.
Oui, mais le loup... Non, mais le... J'ai compris.
La barrière, c'est que le loup puisse nous...
Mais le chef est toujours là. Le chef, il se retire jamais.
Le patron, il est là, derrière.
Non, mais le patron, il peut pas rien faire, puisqu'on n'accepte plus sa protection.
Le patron,
on accepte quoi?
On n'accepte plus sa protection.
Alors, non, très bien. Dans ce cas-là, le patron fait semblant de se retirer. Donc, il fait semblant. Donc, ça veut dire qu'il produit une conséquence. Donc, quand tu as ce problème-là, si toi tu lèves les yeux vers le ciel, tu dis j'ai compris le message, c'est bon, on revient, c'est une chose. Mais celui qui dit non, c'est bon, on va se débrouiller, on a un ministre, on va le parler. Ça marche pas comme ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr que nous avons produit le problème. Mais le problème vient du fait que Dieu se retire. Donc c'est Dieu qui fait ça.
Quelque part, c'est nous qui se retirons.
Non, nous on se retire pas. Nous on lui dit merci, on se débrouille. Donc Dieu il se retire.
Oui.
Donc s'il se retire, le problème nous arrive. Pourquoi il nous arrive? Parce que Dieu s'est retiré.
Cache.
Donc il suffit de dire à Dieu, reviens.
Mais pourquoi se retirer?
Parce que nous on a fauté. Non, je comprends. Bon. Alors on va lire ensemble la deuxième partie de la référence numéro 6. Mordechai et Esther. Yadou beverur. Mordechai et Esther savaient parfaitement. Chez IF Charles et Vatel Bemet et Tamsouba Bakzera, qu'il est impossible d'annuler les faits, donc le décret, Kolzman, Shelo Nistalka Asiba, tant que la cause, les mauvaises actions, étaient toujours là. tu as un effet et une cause. Le problème qui t'arrive, c'est un effet. La cause, c'est les fautes que tu as faites. Tu ne peux pas annuler l'effet, donc le problème qui t'arrive, tant que tu n'as pas annulé la cause. Alors, on pourrait appliquer ça sur le plan personnel, quand il y a un problème qui nous arrive. Mais déjà, comme a dit Yves tout à l'heure, déjà on l'applique sur le plan collectif. Que c'est clair que sur le plan collectif, quand il y a un problème majeur qui arrive tout d'un coup, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible, il y a un problème, il faut faire tchouva. La reine, c'est pour cela. Aïta peulata marishona, le horer et Israël, tu vas me l'exhortanit. C'est pour cela. La première action de Mordechai et Esther, c'est quoi? C'est de dire au peuple, faites teshuva. Nous devons faire teshuva. On va montrer l'exemple, on fait teshuva. Le horaire sera le cheval de l'exhortanit. De décréter un jeûne. Ou la harche ou sera si va t'exer le teshuva. Et une fois que la cause du décret fut annulée grâce à la teshuva, retsono shel hakadosh baruch hu, la volonté de Dieu est, shenaase asi akalchehi gam, qu'on fasse une action quelconque suivant les règles de la nature pour annuler le décret. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est intéressant ce qu'il dit ici. Il faut qu'on développe ce qu'il veut dire ici. Deux secondes. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, quand Dieu te dit comme ça, il te dit le problème se passe en haut. Quand un problème qui t'arrive en bas, il démarre en haut. Ce qui arrive en bas, c'est l'effet de la cause qui est en haut. Donc d'abord, fais tchouva. Quand tu fais tchouva, tu annules la cause. Quand tu annules la cause, automatiquement, tu annules l'effet. Comme il y a des gens, par exemple, ils ont une fuite. Il y a une fuite d'eau, t'as de l'eau qui coule. Elle coule. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas envie de réparer la fuite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il amène des seaux. Il dit, voilà, on a amené des seaux, on a mis du plâtre, etc. D'accord? Mais, dis, donc il a réparé l'effet, tu comprends? Il a réparé l'effet. On lui dit, mais c'est pas l'effet qu'il faut réparer, c'est la cause. D'où vient la fuite?
Le joint, il faut changer.
Il y a un joint à changer, il y a un truc qui coule, il faut réparer. Tant que tu l'as pas réparé, le problème s'arrêtera pas. Et même si tu mets du plâtre, et ben, ça va repartir, il faut remettre du plâtre encore. C'est sans fin. Il faut réparer la cause du problème. C'est la même chose. Tant que tu es en train de réparer l'effet, tu dis oui, on va voir, on va s'occuper de ce Haman. Eh, ça rage roche aussi. Et lui aussi, lui aussi, lui aussi, on va tous les buter. Très bien, vas-y, parle comme ça. Mais t'as pas compris. Eux, c'est des pions. Qui est la vraie cause? C'est nous, c'est Hachem. Donc, réglons le problème en haut. Et une fois que t'as réglé le problème en haut, le problème se réglera automatiquement en bas. Cependant, pour que le problème se règle en bas, il faut quand même faire une action quelconque. Ça veut dire que quand on dit bon, okay, maintenant pour la forme, pour que le problème se règle, bon, tu vas faire quelque chose. Mais en vérité, le problème était déjà réglé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsque je reprends, il y a un problème du préserve qui nous arrive. En l'occurrence ici, Haman qui arrive. Pourquoi Haman est arrivé? Qui l'a envoyé?
Hachem.
C'est à cause de nos fautes. Il vient à cause de nos fautes. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva. Quand on fait tchouva, on règle le problème en haut. Donc on a réglé la fuite. On a réglé la cause. Maintenant, le problème en bas, il est toujours pas réglé, parce que t'as réglé le problème en haut, mais en bas, Haman, il est toujours là. Là, je lui ai dit, bon, tu vas faire juste une action quelconque, juste pour la forme. Tu vas faire un petit truc et le problème, il va partir. Et ça, ça nous apprend ici plusieurs messages. D'accord? Plusieurs messages qu'on va développer, mais bon, on va apprendre de ça deux grands messages pour la vie. Et vous allez voir à quel point la Megillah, la fête de Purim nous parle particulièrement en exil, comme a dit Mickaël tout à l'heure. C'est dommage, c'est ce qu'on vit, ça. Ça, c'est ce qu'on vit, ça. C'est-à-dire des problèmes dans lesquels Dieu se cache et que tu dois te convaincre qu'en vérité Dieu était derrière et ne pas te dire je vais régler le problème parce que je suis bien installé, mais de dire qu'est-ce que Dieu attend de moi. D'accord? Oui, vous avez une question?
Ce matin, tu disais qu'il y a eu deux décrets. Il y a le décret de la Roche et qui nous a donné la permission de nous défendre. Et tu as dit qu'à un moment donné, le fait de se défendre, tout le monde pouvait se défendre, les enfants, les femmes, les vieillards. Donc le fait de se défendre, il fallait avoir de la force, donc ne pas jeûner. Donc si on ne jeûne pas, on n'a pas jeûné finalement.
Quel rapport avec le jeûne?
Parce que tu as dit qu'il faut jeûner pour montrer une action.
Non, pas du tout. J'ai dit que Maïmonide, dans les lois des jeûnes, il explique le concept d'un jeûne, c'est quoi?
Ils sont pas jeûnés.
Mais je parle pas du jeûne d'Esther. Je parle pas du jeûne d'Esther. Je parle du concept. Le concept est que lorsqu'un juif a un problème, il doit d'abord chercher à régler la cause du problème avant de régler les faits. Là, il parle des jeûnes quand il y a pas de pluie, etc. Ce qui m'intéresse, c'est pas la notion de jeûne ou pas jeûne. Ce qui m'intéresse, c'est le concept. Que quand un juif a un problème, avant de le régler en bas, il cherche d'abord à le régler en haut. C'est pour ça que dans toute l'histoire du peuple juif, chaque fois qu'on avait des problèmes, qu'est-ce qu'on faisait? Tout le monde à la synagogue, Tehilim. Mais quel rapport, Tehilim? Va voir le ministre, va voir le maire, va voir le roi. Attends, Tehilim d'abord. Pourquoi Tehilim d'abord? Parce qu'avant de régler le problème en bas, les faits, il faut d'abord régler la cause. La cause passe en haut. Le problème n'est pas arrivé tout seul.
Mais on fait quoi, alors?
Comment tu expliques que pendant 50 ans, 100 ans, 200 ans, tu vis tranquillement et tout d'un coup, t'as un Haman qui arrive, d'où il sort ça? Pourquoi il est venu là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qui l'a envoyé? D'où il sort? Comment il a pris de la place? C'est pas normal. C'est pas logique. Alors, tu vas dire, oh, ben, alors, t'as celui qui va dire, bah, c'est la vie. Non, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Mais seulement, encore une fois, comme le nom de Dieu est caché, donc celui qui veut croire que c'est la vie, a tout pour le croire. C'est la vie. Mais un juif croyant, ça c'est le message de Mordechai et Esther, tu dis non. Quand t'as un problème, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Tu dois aller chercher plus loin. Tu dois aller chercher la cause du problème. Et là, avec ça, ce que j'aimerais faire descendre ça dans la vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'on a la référence numéro 7 et la référence numéro 8. Très intéressante. Avec ça, on va répondre à toutes les questions. Tout d'abord, on a la référence numéro 7. Un premier enseignement actuel. Applicable même en exil. Kaacher midrageshet et tsara chamana litzlan. Lorsqu'un malheur survient, que Dieu nous en préserve. Yesh asvorim, certains pensent, Shapeula Rishon Avaikarit, que la réaction initiale et principale, Tsrich Aliyot, Aishtadub Darkateva, doit être les efforts par la voie naturelle. Beaucoup de gens pensent comme ça, ils disent, écoute, d'abord on va essayer de parler, on va parler avec le ministre, on va parler avec le roi, et si ça marche pas, on ira faire des prières. La vérité, c'est la réaction naturelle que nous avons. Quand tu as un problème et que tu as des solutions entre les mains, tu dis, écoute, d'abord on va utiliser les solutions, et si ça marche pas, on fait appel à Dieu. C'est le réflexe humain. Eh ben non. Alken Mashmienu Sipur Amegila. Sur cela, nous apprend l'histoire de la Megila. Il te dit, chez Davar Zetzarik Lavo à Kharkar, que les efforts doivent venir par la suite. C'est-à-dire, Apeula Arishona, la première réaction suite à un problème, Tsrikhaliot doit être Rizouk Ait Kashrut Lakadosh Bangrou, renforcer l'attachement à Dieu, à l'aider l'imout Torato avec Yim Mitzvotav par l'étude de la Torah et la connaissance des Mitzvot. On a vu ça dans toutes les guerres. Par exemple, tu avais la guerre du Golfe, toutes les guerres. La guerre de Kippour. On doit partir au front, hein. Pas de choix, il faut partir au front. Mais qu'est-ce qu'ils disent les rabbinim à chaque fois? Rajoutez une mitzvah. Faites Tehilim. Ceux qui peuvent, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris, que la première réaction qu'un juif doit avoir, c'est renforcer la relation que j'ai avec Hachem. Après, une fois que j'ai renforcé la relation verticale que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, après, je veux passer à l'horizontale, je veux dire, bon, maintenant, on va essayer de régler le problème ici-bas. Et donc, il dit comme ça, « Gam bisman apurim, ayam Israël begalout mefozar umfora ben amim. » Même à l'époque de Purim, le peuple était exilé et il le resta après le miracle. Et pourtant, le salut vient par le retour à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Parce qu'il y a deux points dans la référence numéro 7. Le premier point, c'est qu'on doit savoir que lorsqu'il y a un problème, il faut d'abord parler à Dieu. Avant de régler le problème en appelant le banquier, en appelant le maire, en appelant qui tu veux, d'abord, il faut essayer de parler à Akadosh Baruch Hu. Et il amène ici un très bel exemple. D'accord? Il dit, c'est comme si c'était une personne qui rentre à la banque pour tirer de l'argent. Mais qui n'a pas de chèque pour tirer de l'argent. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas les cartes bleues comme on a aujourd'hui. Pour aller, quand tu allais à la banque, tu devais faire un chèque à ton nom. Il te donnait l'espèce. Donc, imaginez maintenant quelqu'un qui va à la banque, d'accord? Qui va à la banque, mais qui n'a pas de chèque pour tirer de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'a pas de chèque. C'est-à-dire qu'il va prendre l'argent dans un certain compte, mais il n'a pas de chèque. Ou bien, il vient avec un chèque, mais c'est un chèque d'une personne qui n'a pas de compte dans cette banque. C'est une perte de temps.
Ah, oui,
ça veut dire, on comprend bien que le chèque est un keli, est un réceptacle. Mais c'est le réceptacle qui marche seulement si tu es dans la bonne banque et la bonne personne. Mais si tu n'as pas de chèque, ou bien si tu n'es pas à la bonne banque, ça ne marche pas. De la même façon. Oui. Celui qui dit, oui, mais moi j'ai tout ce qu'il faut, je suis ministre, je vais aller voir le ministre. On dit, oui, mais tu n'as pas compris. Ça, aller voir le ministre, c'est comme celui qui va à la banque pour aller tirer de l'argent. Mais encore faut-il qu'il y ait de l'argent à tirer. Ça veut dire que le ministre, pour que ça marche, il faut que dans le ciel, on ait décidé que ça puisse marcher. Si dans le ciel on essaie que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Et le ministre te dira, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Et sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. Ah bon? Comment vous appelez? Esther? Je ne sais pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas. Hein? C'est la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... D'ailleurs on le sent des fois. Dans la vie des fois on sent qu'il y a des situations qui sont bloquées. Et tu sens que c'est bloqué. C'est-à-dire, tu sens que tu dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Mais attends, mais c'est rien. D'habitude, je règle ça avec un coup de fil. D'habitude, je règle ça avec une phrase. Et là, pac, 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 plus que des sectes. T'as l'impression qu'on te claque des portes, tu te retrouves devant l'immeuble comme ça. Tu rentres, on te laisse même pas rentrer. C'est un peu l'impression que tu as des fois. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, bien sûr. Parce que toi, tu veux régler l'effet avant de régler la cause. Ça marche pas comme ça dans la vie. D'abord, un juif, il doit d'abord régler la cause. D'abord, il doit voir par rapport à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tu vas dire, oui, il m'a dit, d'accord, ce que tu lui as dit, c'est très bien. Mais ça, c'est peut-être valable à l'époque du Beth Amikdash. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, on voyait Dieu. Donc là, effectivement, on peut dire qu'à cette époque-là, celui qui faisait le malin, il prenait sur la tête, il comprenait le message. Mais quand on est en exil, que ça s'applique, qu'est-ce que je te réponds à ça, Chéline? Mais bien sûr, regarde l'histoire de la Megillah. L'histoire de la Megillah se passe où? Du début à la fin.
En exil.
L'histoire de la Megillah commence, on est en exil. Elle termine, on est encore en exil. Et pourtant, on a cherché la main de Dieu, on l'a trouvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne crois pas que ce que je vais t'expliquer, c'est valable qu'à l'époque du Beth Amikdash. Mais que maintenant, on est en France, on n'a pas le choix. En France, oui, comme en français. Et c'est comme ça, on règle les problèmes à la française. Et non, ça marche pas comme ça. Quand tu as un problème, il faut d'abord le régler spirituellement. C'est pour ça que quand tu as un problème, tu vas aller voir un docteur. Tu vas aller voir un docteur, tu vas me dire, Fouachlema, tu fais tout ce qu'il faut, etc. Tu vas aller voir un docteur. Mais avant d'aller voir le docteur, tu vas faire un Tehilim. Pourquoi tu fais Tehilim? Pourquoi tu fais Tehilim? J'en fais le contraire. D'abord, tu vas voir le docteur. Et si le docteur ne gère pas, tu fais Tehilim. Non, ça marche pas comme ça. Tu as un problème, d'abord, tu fais Tehilim. D'abord, tu t'adresses à la cause du problème. Et après, tu vas voir le docteur. Parce que si Dieu en haut a décidé de te régler le problème, tu t'étais Tehilim, même un stagiaire, il peut te régler le problème. Même un stagiaire dit, ouais, mais c'est évident, il faut prendre un médicament, il est guéri. Alors que si Dieu veut pas régler le problème, tu peux amener le plus grand spécialiste, le problème ne sera pas réglé. Parce que c'est Dieu le plus grand docteur. C'est Dieu celui qui donne le remède à tous les problèmes. Donc voilà le premier enseignement. Le premier enseignement que nous avons du cours d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on doit savoir, l'histoire de Pourim nous apprend que même lorsqu'un problème t'arrive, même si tu penses pouvoir le régler avec des méthodes conventionnelles, avec des méthodes diplomatiques, avant d'utiliser les méthodes conventionnelles, naturelles, humaines et diplomatiques, il faut d'abord faire appel aux méthodes surnaturelles. Il faut d'abord demander l'aide d'Akadosh Baroukh Hou. C'est le premier enseignement. Maintenant, on a un deuxième enseignement. Et là, on va répondre aux questions. La raison pour laquelle Pourim est un mot en perse. Et la raison pour laquelle, d'accord, dans la Megillah, on ne cite pas le nom d'Hachem, etc. Comme toutes les questions qu'on a posées. C'est pour te dire la chose suivante. Gam Kshiyoudi, pourquoi Pourim est écrit, comme on a dit, en un mot en perse? Pourquoi en perse? Pourquoi c'est pas un mot en hébreu? Réponse. Gam, référence numéro 8. Gam Kshiyoudi Osek Beinyane Misra Imeno Yehudi. Même lorsqu'un juif fait des affaires avec un non-juif. Veazai Lehavdil. Veazai. Mouchach, les d'abers immobiles la chante parsi, et qui doit lui parler en perse, entre guillemets. C'est quoi de parler en perse?
C'est-à-dire en français.
Ça veut dire en français. C'est-à-dire que quand tu parles à un juif, tu parles en juif.
Ouais.
Mon frère vient, etc. Mm. Quand tu parles à un non-juif, tu parles en perse. Mm. Tu parles en sa langue. Donc c'est-à-dire que des fois, la réalité du monde des affaires t'impose de descendre.
Ouais.
Donc là, j'aurais pu dire, je veux bien que je fasse le juif lorsque je suis à la synagogue. Je veux bien que je fasse le juif lorsque je suis en train d'étudier la Torah. Je veux bien que je fasse le juif lorsque je fais du business avec des juifs. Que là, effectivement, on va suivre les règles de la Torah, etc. Mais si je fais des affaires avec un non-juif, bah là, je fais des affaires de français à français. Hein? C'est monsieur David qui va à monsieur Bertrand, c'est comme ça, c'est, voilà, c'est français à français. Égal à égal. Qu'est-ce que la Torah te dit? Elle te dit non. Elle te dit que, des fois, dans les affaires, des fois, tu te rends compte d'un coup, c'est très fort ce qu'il va dire ici.
Il va sortir le juif.
Que le non-juif avec lequel tu fais les tu traites, Aloul, Agoy, Lerapes, Etsev, Tarboulot, Chenot, Nekdo. Des fois, le non-juif pourrait chercher à te nuire. Des fois, tu sens, tu m'attends, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Je suis parti faire une affaire avec un français ou avec un arabe, peu importe, d'accord? Moi, je suis parti faire les affaires comme on fait les affaires entre deux êtres humains. Et là, tout d'un coup, je sens qu'il me fait des crasses et qu'il est en train de mettre le côté religieux, tu vois. Dis, ah, le juif, on va planter le juif. Je dis, mais attends, mais quel rapport le juif maintenant? Je te vends un costume. Je te vends une arme. Je te vends une pizza. Quel rapport maintenant? Non mais voilà. Je te vends une transaction. Je te vends des bonbons. Je te vends qui tu veux. D'accord? Non mais c'est vrai. Alors je te fais une course Uber. Marcel. Quel rapport le judaïsme maintenant? Et des fois tu sens que le gars il est là. Il est en train de vouloir te faire une crasse, de vouloir te mettre un couteau dans le dos. Alors tu dis, mais attends, je comprends pas. Ce problème-là, on va le régler comme des Perses. Ça veut dire, on va le régler de français à français. Je dis, bon, bah, écoute, on va parler, viens, on parle. D'accord? Je dis, non, t'as pas compris. C'est que lorsque t'as justement un non-juif qui veut te causer du tort, tu peux te dire, bon, bah, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. De français à français. Des fois, c'est Bertrand qui a envie de planter François, et ben maintenant, Bertrand a envie de planter David. Et donc, ben, je vais faire comme Bertrand et François, donc je vais me défendre comme un François. Qu'est-ce qu'on te répond à ça? On te dit non. prends un avocat, défends-toi, etc. On te dit non. Avant de faire le François, il faut d'abord faire le David. Avant de faire le François, hein, Jean-François David, avant de faire le François, il faut d'abord te dire quelle est ma réaction juive à cette situation. Après, je vais prendre un avocat. Après, je vais lui rentrer dedans comme un bon juif. Ça n'est pas de problème, tu peux me faire confiance. Mais avant de réagir comme un homme d'affaires, quelle doit être ma première réaction? Je dois réagir comme un juif. Je dois lever les yeux vers le ciel. Je dois dire, Hachem, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qu'il m'envoie comme message ici? Je dois chercher. Il faut chercher quelque chose. Il y a peut-être un message qu'Hachem veut t'envoyer. Il faut que tu te ranges, il faut que tu améliores un peu le Shabbat, il faut que tu améliores un peu l'honnêteté dans les affaires, il faut que tu arrêtes telle avéra. Il y a un message. Et là, et des fois, en général, le message, on le comprend. Tu lèves les yeux vers Hachem, tu dis, c'est bon, j'ai compris. 5/5. Et là, après, tu vas le voir, tu dis, bon, écoute, tu sais, Bertrand, j'ai pensé, en vérité, tu voulais dire ça, c'est ça? Oui, bien sûr. Et hop, il te remet, il se renseigne avec toi. Ça veut dire quoi? On va lire dans les mots. Ça veut dire, il te dit, tu dois savoir que pourquoi le nom de Pourim est écrit en perse. Pour te dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas présent seulement dans ta vie en hébreu. Akadosh Baruch Hu est présent même dans ta vie en perse. C'est même dans ta vie perse, dans ta vie française. Dans ta vie de citoyen. Justement, c'est-à-dire que toi, tu aurais pu penser, Dieu est présent quand je suis à la synagogue. Dieu est présent, Shabbat. Dieu est présent quand je fais ma prière. Maintenant, quand je suis au français, à Rome,
comporte-toi
comme un Romain. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis un français. Je suis un bon français. Je suis un citoyen français. Qu'est-ce que te répond la Megillah? La Megillah, elle te répond, elle te dit, Al-Zeba'a Aora'a. C'est un enseignement qui est pas simple, mais qui est très fort. Al-Zeba'a Aora'a, sur ça vient l'enseignement. Sha'alav la dat, shebekar gufa yeshto le malam yateva. On te dit, tu dois savoir que même en Perse, tu as le sort. C'est quoi le sort? Le sort, c'est ce qui dépasse la logique. C'est ce que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que même dans les choses mondaines, même dans les choses de la vie de tous les jours, il y a le sort. Il y a ce qui dépasse la logique. C'est très fin ce qu'il veut dire ici. C'est-à-dire que nous, on a tendance à penser, ce qui est du ressort de la Torah et des mitzvot, ça dépasse la logique, il n'y a pas de problème. Ce qui est le Shabbat, les fêtes, ça dépasse la logique. Mais quand je suis dans mon affaire, je suis devant le banquier maintenant. Quel rapport maintenant le sort? Quel rapport maintenant Dieu et que ça dépasse tout? Je parle avec un banquier. Je suis citoyen. C'est un acte, je parle avec un banquier comme n'importe qui reparle avec un banquier. Je dis non. Pourim est un mot qui est en perse, qui veut dire le sort. Pour te dire, même dans ta vie perse, même dans ta vie citoyenne, le sort est là. C'est quoi le sort? C'est ce qui dépasse l'entendement. Qu'est-ce qui dépasse l'entendement? C'est Hachem. C'est-à-dire que Hachem est présent dans chaque aspect de ta vie, même les aspects logiques. Il est toujours là. Et chaque fois que tu as un problème, même si c'est un problème qui a l'air logique, d'abord, lève les yeux vers le ciel. Et c'est comme ça que tu vas régler les problèmes. Et c'est pour ça, justement, que Pourim te célèbre le problème. Parce que le sort, en vérité, c'est pas un problème, le sort. Le sort, c'est un message très très fort, le sort. C'est quoi le sort? Le sort, c'est ce qui dépasse la logique. T'as ce qui est la logique et ce qui dépasse la logique. Donc j'aurais pu penser que bon, un juif, il est plutôt rationnel. On te dit non. Tu sais comment Aman, il a voulu t'attaquer? Il a voulu t'attaquer de façon irrationnelle. Tu sais comment nous lui répond? L'irrationnel. Ça veut dire que t'as un problème avec lui dans le business, tu lèves les yeux vers le ciel. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as un rapport au ciel maintenant? Quel rapport? C'est là que ça se passe. Non, non. D'abord, je demande au ciel. C'est irrationnel de faire ça. Il y a aucune logique de faire ça. Tu veux expliquer la logique? Le gars, il a un problème dans le business avec son banquier. Il va se lever les yeux vers Dieu pour dire, aide-moi. Quel rapport avec Dieu maintenant? C'est lui qui faut parler avec lui. Non. Avant de parler avec lui, je comprends que la relation que j'ai avec les Perses, la relation que j'ai avec les citoyens, avec mes concitoyens, d'accord? Cette relation passe par Akadosh Baruch Hu, passe par le sort. Et donc, c'est très fort ce qu'il dit ici, parce qu'il dit, dans la parasha Vayeler, le pasuk qui parlait du voile d'Akadosh Baruch Hu, il disait, Anochi Aster Astir Panai. Akadosh Baruch Hu dit, et moi, je me cacherai. C'est qui moi? C'est qui moi?
Hachem.
C'est Hachem. Attendez. Quand tu dis le nom d'Hachem, il y a plusieurs façons de dire le nom d'Hachem. Des fois, on peut dire le nom d'Hachem par un titre. Par exemple, on peut dire Hachem, on peut dire Eloki, on peut dire, c'est des titres, tout ça. Mais ça, c'est les titres qui limitent à Kadosh Baruch Hu. Quand tu as le mot moi, Anochi, moi, c'est un titre qui, c'est même pas un titre, c'est au-delà de tout, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, toi, tu crois que je me cache, Aster, Astir, mais en vérité, Anochi, il y a mon essence qui est là. Je suis là, je t'ai jamais abandonné. Et ça, c'est un message très 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 important en exil, surtout en exil. De se dire que même si on a l'impression que Dieu se cache, et bien Dieu se cache, il est là, il se cache, tu dois savoir qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu est plus présent que jamais. Il est toujours là, dans tes affaires, partout, même dans ta vie perse. C'est pour ça que Pourim, c'est un mot en perse pour te dire, Dieu est partout, même dans ta vie perse, même là-bas, il est là. Il est toujours là. Et donc, ce qu'il dit ici, il dit, Megillat Esther, quel est ton rôle, comme on l'a dit tout à l'heure, Megillat dévoilé, Esther, un dévoilement caché, un dévoilement dans le caché. Dans Akadosh Baruch Hu qui est caché, on dévoile, on montre qu'en vérité Akadosh Baruch Hu était toujours là. C'est ça notre challenge. Vous voyez, on a commencé avec une histoire toute simple. Pourim, un mot en perse, etc. Et on a montré comment, en vérité, derrière chaque mot de la Megillah, derrière chaque détail de la Megillah, se cache la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc avec ça, on a répondu à la question. Dans la référence numéro 2, on avait posé une question, on avait dit pourquoi Pourim est en perse. On a répondu, pourquoi Pourim est en perse, c'est pour te dire que même dans la vie perse, Akadosh Baruch Hu est présent. Pourquoi Pourim veut dire le sort, alors que le sort c'est le problème? Qu'est-ce qu'on répond? Non, le sort c'est pas le problème. Le sort c'est la solution. Pour te dire que même dans ta vie de tous les jours, dans les activités mondaines que tu fais, le sort est présent, le sort d'Hachem est présent, ce qui est au-delà de la logique. Ta vie est au-delà de la logique. Un juif vient à savoir que chaque détail de sa vie transcende la logique. Tu dis, mais pourquoi? Je suis un bon français, moi. Je suis un bon algérien, j'ai pas de problème. Je suis un français juif. C'est tout. Je suis pas un juif français, je suis un français juif. Je suis français et je suis de religion juive. On te dit non. Bah, t'as pas compris. T'as pas compris. Peut-être qu'un jour viendra quelqu'un pour te le rappeler, j'espère pas pour toi. Mais sache que ça marche pas comme ça. Chas v'chalila, ça marche pas comme ça. Tu es d'abord juif. D'abord, tu transcendes la nature. Après, ce juif-là, tu descends dans la nature. C'est pour ça, lorsque t'as un problème, avant de faire appel à ton côté français, fais d'abord appel à ton côté juif. Dire, un juif, il a les yeux vers Hachem. Et chacun, de toute façon, un va lire Tehillim, l'autre va faire une mitzvah, l'autre va aider quelqu'un. Chaque juif a sa façon de s'exprimer. Ça veut pas dire forcément qu'il est religieux. Chacun a sa façon de s'exprimer. Elle va dire, bon, j'ai compris qu'il faut que je me range un petit peu, il faut que je mette un peu le frein, ou il faut que je mette un peu l'accélérateur. Ça dépend sur quoi il est prêché. Ça, c'était pour moi cette question. Avec ça, on a expliqué pourquoi Megillat Esther, pourquoi le nom de Dieu n'est pas écrit, justement. Parce que c'est justement pour construire ce paradoxe de l'exil, dans lequel d'un côté Dieu n'est pas écrit, Dieu est caché, mais d'un autre côté, Dieu est présent partout. Megillat Esther. Et ça, on l'a compris avec la reine Esther, avec Mordechai, qui nous ont montré le message que lorsqu'on a un problème et que de prime abord, on a l'impression que ce problème est un problème diplomatique, vient la reine Esther, vient Mordechai nous apprendre que comment on va régler ce problème. On va régler ce problème d'abord spirituellement avant de le régler matériellement. Enfin, je termine. Ou que chez Yehudi, Koret à Megillah, mais la chaîne Gilouï. Lorsqu'un juif lit la Megillah qui veut dire dévoilement, ou Margi chez Ken ou Beshaazo, et qui sent que ça se passe maintenant. C'est pas une vieille histoire qui s'est passée. Rappelez-vous le mot du Baal Shem Tov. Ça se passe maintenant. Maintenant, en exil, Dieu se dévoile à moi. Lorsqu'un juif lit la Megillah et qu'il sent ça, Azai ou Magia ad bofan sheloyata si probatim ou belet, c'est ce qui l'amène à une joie extraordinaire et illimitée. Parce que, évidemment, lorsque tu dis que Dieu était avec moi lorsque j'étais à l'époque du Beit HaMikdash, c'est normal, c'est logique. Mais de dire, réaliser, comprendre, saisir qu'Akadosh Baruch Hu est présent aussi fort qu'avant, peut-être même encore plus fort qu'avant, aujourd'hui en exil, alors qu'on ne le voit pas, mais en vérité il est partout, comprendre ça, réaliser ça, c'est une joie, c'est une source de joie illimitée, parce que tu comprends en vérité qu'Hachem est partout, qu'il n'y a rien qui le limite. Il n'est pas limité à un Beit HaMikdash, à un lieu, à un moment, non, il n'y a rien. Même en Perse, il est là. Même dans tes affaires, il est là. Il est tout le temps avec toi, Hachem. Et donc, à toi d'avoir les bons repères, ne pas chercher les mauvais repères, de dire, je vais régler ça comme un citoyen. Non. D'abord, tu règles ça comme un juif. Donc vous voyez, c'est un message qui est très fort. La vérité, c'est un message qui n'est pas facile du tout à appliquer dans notre vie. Parce qu'on est tous confrontés à ces problèmes-là, chacun à notre niveau. D'accord, des situations. D'abord, la référence 7 et 8, ce n'est pas la même chose. La 7, elle nous parle des problèmes qu'on a dans la vie, dans la famille, etc., des problèmes internes. Que même ça, un juif, il doit d'abord lever les yeux vers Hachem pour le régler, après, il essaie de le régler naturellement. Mais la référence numéro 8 est encore plus forte. Ça veut dire, ce n'est pas seulement les problèmes internes, même les problèmes externes. Les problèmes que tu as avec les nations, ça n'a rien à voir. Tu dis à Rome, comporte-toi comme un Romain. On dit non. Donc là, on devrait modifier le proverbe. À Rome, comporte-toi comme à Jérusalem. Voilà.
Azak. On peut garder le.
Mais ça, c'est pour vous.
On peut garder
l'équipa. Justement, on garde l'équipa.
Merci.
Voilà. Pourim sa mère.
Derrière.
Attendez, les amis. On fait.
Ah oui. Non, merci.